Chapitre 27. Captive. Personne ne peut porter longtemps le masque. Sénèque. Les deux dards du taser frappèrent Alice au bas de l'abdomen, libérant une décharge électrique qui la foudroya. Paralysée, l'adolescente s'écroula sur place, le souffle et les jambes coupées, le système nerveux bloqué. Son agresseur fut sur elle dans la seconde. Il l'attrapa à la gorge et lui enfonça brutalement un mouchoir dans la bouche avant de la bâillonner avec un chèche. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Il appuya sur un bouton pour accéder au sous-sol et, pendant la descente de l'appareil, plaqua Alice au sol. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, il la retourna à plat ventre, lui attachant les poignets et les chevilles à l'aide de deux colliers Serflex en nylon qu'il sangla au maximum. En quelques secondes, ils furent au parking. L'homme, la tête toujours couverte de sa cagoule, empoigna Alice comme un sac et la hissa sur son épaule. Encore dans les vapes, elle tenta mollement de se débattre, mais plus elle remuait, plus le type resserrait son emprise. Ses bras étaient puissants comme de lourdes mâchoires capables de lui broyer les os. Comment avait-il réussi à se jouer d'un système de sécurité si sophistiqué? Comment avait-il su qu'Alice prendrait l'ascenseur à ce moment précis? Dans la pénombre, ils traversèrent l'espace de stationnement jusqu'à un pick-up Dodge de couleur bordeaux. Avec sa calandre monstrueuse, ses vitres teintées, ses chromes rutilants et ses roues arrière dédoublées, l'engin avait une allure effrayante. L'homme précipita Alice sur la banquette arrière, séparée du conducteur par une plaque de plexiglas comme on en trouve dans les taxis. Il s'installa au volant et quitta le parking sans être inquiété grâce à un badge électromagnétique. Dès qu'il rejoignit l'extérieur, l'inconnu retira sa cagoule, permettant à Alice d'apercevoir son visage dans le rétroviseur central. C'était un homme aux cheveux ras, aux yeux vitreux et aux grosses joues flétries et couperosées. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. La camionnette se fondit dans la circulation pour rejoindre Broadway avant de tourner sur Columbus Avenue. Les genoux tremblants, le cœur battant, Alice commençait à peine à émerger de l'état catatonique dans lequel l'avaient plongé les impulsions électriques du taser. Gagnée par la panique, elle s'efforça néanmoins d'apercevoir par la fenêtre le trajet emprunté par son ravisseur. Tant qu'il restait dans les quartiers touristiques, elle gardait un espoir. Avec ses pieds, elle essaya de tambouriner contre la vitre, mais le lien qui lui retenait les chevilles ne lui permettait pas la moindre latitude de mouvement. Terrorisée, elle s'étouffait avec ce bâillon qui lui coupait la respiration. Elle fit une tentative pour libérer ses mains, mais les cordes en nylon pénétrèrent douloureusement dans ses poignets. La voiture descendit la 9e avenue jusqu'à la 42e rue. Ils étaient à présent du côté de Hell's Kitchen, la cuisine du diable. Alice essaya de se raisonner. « Calme-toi, respire par le nez, garde ton sang-froid. » Elle n'allait pas mourir. Du moins, pas tout de suite. S'il avait voulu la tuer, l'homme l'aurait déjà fait. Il n'allait sans doute pas la violer non plus. Un détraqué voulant assouvir une simple pulsion n'aurait pas pris autant de risques en pénétrant dans un bâtiment aussi surveillé que Juilliard. Qui était cet homme, alors? Quelque chose l'avait marqué. Il avait pris soin de ne pas l'atteindre au thorax avec son arme, préférant viser l'abdomen. Il sait que j'ai été transplanté et qu'une décharge électrique trop près du cœur aurait pu me tuer. Sans connaître encore les motivations de son ravisseur, Alice avait déjà compris que, ce soir, son passé la rattrapait. L'homme conduisait prudemment, gardant sa droite, attentif à ne pas dépasser la vitesse autorisée pour éviter tout contrôle de police. Il avait rejoint l'extrémité ouest de la ville et descendait vers le sud en longeant le fleuve. Il roulait depuis moins d'un quart d'heure lorsque le pick-up s'engouffra dans le tunnel de Brooklyn Battery. Mauvais signe. On quitte Manhattan. Il venait de dépasser le péage lorsque le téléphone de l'inconnu retentit. Il décrocha à la première sonnerie, grâce à un kit-main libre, branché sur un ampli, permettant à Alice de saisir la plus grande partie de la conversation.
« Alors, Yuri ?»
demanda la voix.
« Je suis sur la route. Tout s'est déroulé comme prévu. »
annonça-t-il avec un accent russe à couper au couteau.
Tu ne l'as pas trop abîmé?
J'ai suivi les instructions.
D'accord, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Oui, répondit le Russe.
N'oublie pas de la fouiller et débarrasse-toi du pick-up.
Compris.
La voix au téléphone, c'était celle de... Non, ce n'était pas possible. Tout s'éclairait à présent. Le cœur d'Alice battit encore plus vite, car elle venait de comprendre que le danger était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Sous le coup de la panique, le bâillon la fit de nouveau suffoquer. Elle se força à respirer lentement. Il fallait absolument qu'elle tente quelque chose. « Mon mobile !» En essayant de ne pas attirer l'attention, Alice se contorsionna pour extirper son portable de la poche arrière de son survêtement. Malheureusement, ses poignets entravés rendaient tout mouvement difficile, surtout sous la surveillance quasi constante de Yuri, qui jetait de fréquents coups d'œil dans le rétroviseur. Pourtant, à force de patience et d'obstination, elle réussit à s'emparer de son appareil et à le déverrouiller. À l'aveugle, elle avait déjà composé les deux premiers chiffres du 911 lorsque le Dodge pila brutalement. Le téléphone gicla des mains d'Alice pour être projeté sous le siège de la banquette.
« Gandon !» jura le Russe à l'intention du motard qui venait de griller le feu.
Ficelée comme un saucisson, Alice ne pouvait plus rien faire. L'appareil était définitivement hors de sa portée. Ils roulèrent encore une bonne quinzaine de minutes, s'enfonçant dans la nuit en direction du sud. Où allait-on? Elle était persuadée qu'ils avaient déjà quitté Brooklyn depuis un moment lorsqu'elle aperçut le panneau de Mermaid Avenue, l'une des principales artères de Coney Island. Elle eut un fol espoir lorsqu'ils croisèrent une voiture de police qui patrouillait dans Surf Avenue, mais les deux flics se garèrent devant la baraque de Nathan's Famous pour se baffrer de hot-dog. Ce n'était pas d'eux qu'elle devait attendre son salut. Le Russe tourna dans une impasse obscure et éteignit ses phares. Pas d'autre voiture en vue. Il avança jusqu'à un bâtiment délabré et coupa le contact. Après avoir vérifié que l'endroit était désert, Yuri ouvrit l'une des portières arrière du Dodge pour libérer la jeune fille. D'un coup de couteau, il fit sauter les liens qui entravaient ses chevilles.
« Avance !»
Alice entendit le bruit des vagues et sentit l'air salin balayer son visage. Il se trouvait au milieu d'une zone lugubre et désolée, proche de l'Atlantique. Il régnait sur la presqu'île une ambiance funèbre, loin des gratte-ciel de Manhattan et de l'agitation du Brooklyn branché. Au début du XXe siècle, Coney Island hébergeait pourtant une immense fête foraine. Ces attractions, réputées pour leur originalité, attiraient plusieurs millions de touristes venus des quatre coins des États-Unis. Ses manèges vibraient au rythme des flonflons et de l'effervescence. Sa grande roue était la plus haute du pays, son grand huit le plus rapide, ses trains fantômes les plus effrayants et son freak show exhibait les monstres les plus difformes. Suspendu à un câble, on pouvait même sauter en parachute du haut d'une gigantesque tour. Mais cette époque glorieuse était loin. En cette froide nuit de décembre, les lieux n'avaient plus rien de sa splendeur et de sa magie d'antan. Dès les années 1960, l'endroit avait amorcé son déclin, incapable de résister à l'ouverture de Disneyland et autres parcs à thème plus modernes. Aujourd'hui, la zone n'était plus qu'une succession de terrains vagues, de parkings grillagés, de hautes tours d'habitation décaties. Seule une poignée de manèges continuait à tourner pendant les mois d'été. Le reste de l'année, les attractions donnaient l'impression de pourrir sur place, rongées par la rouille et la crasse.
« Tu essaies de fuir et je t'égorge comme un agneau !»
prévint Yuri en plaçant la lame de son poignard sous le cou d'Alice. Il l'entraîna sur un terrain boueux, protégé par de hautes palissades taguées où courait une meute de chiens déchaînés. Des dogues allemands en poils jaunes dont les yeux fous irradiaient dans la nuit. Leur maigreur soulignait un manque de nourriture évident qu'ils compensaient par une agressivité et des aboiements effrayants. Yuri lui-même eut du mal à faire taire ses molosses. Il pressa Alice jusqu'à un entrepôt désaffecté, dont il ouvrit la porte et força sa proie à descendre un escalier métallique conduisant à un tunnel étroit. Un courant d'air glacial s'engouffra avec eux dans l'espace resserré. Le passage était tellement sombre que le Russe fut obligé d'allumer une lampe torche. Des tuyaux et des canalisations de toute taille parcouraient le souterrain. De vieux moteurs ainsi que d'antiques compteurs électriques étaient empilés le long du trajet. Sur un mur, on avait entreposé un panneau en bois peint représentant des dizaines de monstres, et qui promettait « The Scariest Show in Town », une publicité pour l'un de ces trains fantômes qui pullulaient dans le parc 50 ans plus tôt. Visiblement, il se trouvait dans la salle des machines d'un ancien manège. La lumière était faible, leurs ombres dansaient sur la paroi. La lueur de la lampe se reflétait dans des flaques d'eau croupissantes. Au bout du souterrain, ils dérangèrent un groupe de gros rats qui, dans leur panique, se mirent à couiner et à courir dans tous les sens. Des larmes coulaient sur les joues d'Alice. Elle eut un mouvement de recul, mais Yuri la menaça à nouveau de sa lame pour la forcer à emprunter une rampe en colimaçon qui menait dans les profondeurs de l'entrepôt. Là, ils dépassèrent une dizaine de portes en ferraille qui se succédaient le long d'un corridor en cul-de-sac. En traversant les ténèbres, Alice s'enfonçait dans sa peur, sentant un gouffre se creuser dans son estomac. Au bout du couloir, ils arrivèrent devant le dernier rectangle métallique. Yuri sortit un trousseau de sa poche et ouvrit la porte de l'enfer. À l'intérieur, il faisait un froid polaire. L'obscurité était totale. Yuri approcha sa torche pour trouver l'interrupteur. Un néon poussiéreux répandit péniblement une lumière blafarde, révélant une petite pièce au mur décrépit. Il y flottait une odeur de moisie et d'humidité. Soutenu par des piliers métalliques rouillés, la cave avait un plafond bas qui aurait donné à n'importe qui un sentiment de claustrophobie. Le local était aussi insalubre que spartiate. À droite, une cuve de toilette répugnante et un petit lavabo encrassé. À gauche, un lit de camp en acier. Sans ménagement, le Russe poussa Alice dans la salle exiguë. Elle tomba sur le sol poreux où de l'eau suintante rendait la surface spongieuse et repoussante. Malgré ses mains entravées, Alice parvint à se relever et asséna de toutes ses forces un coup de pied rageur dans l'entrejambe de son ravisseur. « Svalotch !» cria la brute en encaissant. Il recula, mais il en fallait plus pour le mettre à terre. Avant qu'Alice puisse armer un autre coup, il se rua sur elle, lui enfonçant un genou dans le coccyx pour la plaquer au sol, manquant de lui déboîter l'épaule. Alice suffoqua. Il y eut quelques secondes confuses, puis elle entendit un cliquetis et se retrouva menottée à une épaisse canalisation qui courait le long du mur. Se rendant compte que le mouchoir était en train de l'étouffer, Yuri la délivra de son morceau de tissu. En larmes, la jeune fille eut un long accès de toux avant de reprendre son souffle, respirant avec avidité l'air raréfié. Yuri avait retrouvé de sa superbe, prenant plaisir à contempler la souffrance de sa victime.
« Essaie encore de me frapper !» plaisanta-t-il.
Alice hurla, le cri comme dernière arme. Elle avait beau savoir qu'à cette profondeur, et compte tenu de l'isolement de l'endroit, personne ne pouvait l'entendre, elle mit toute l'énergie de son désespoir à crever le silence de la nuit. Le Russe prit son pied pendant une longue minute. Tout l'excitait. La peur de la fille, l'étroitesse et l'obscurité de l'endroit, la sensation de puissance qu'il sentait monter en lui. Mais il se méfia de son désir. On lui avait bien dit de ne pas violer la gamine pendant les 3 premiers jours. Après, il pourrait en faire ce qu'il voudrait. À présent, Alice s'époumonait. Mais bientôt, ses cris se changèrent en crises de larmes. Yuri jugea que la plaisanterie avait assez duré. Il fouilla dans sa poche et en tira un épais rouleau de Chatterton dont il se servit pour museler l'adolescente. Par sécurité, il lui lia de nouveau les chevilles avant de l'abandonner à son sort en refermant la porte métallique derrière lui. Il fit le chemin inverse, remonta la rangée de caves, la rampe en spirale, le tunnel glacial, l'escalier en acier. Il rejoignit enfin la surface et la meute de chiens qu'il affamait volontairement pour éloigner d'éventuels curieux. Maintenant, pour brouiller les pistes, il devait se débarrasser du Dodge. Il avait la possibilité de le brûler sur un terrain vague, mais c'était risqué, car il pouvait se faire repérer par une patrouille de flics. Le plus simple était encore de l'abandonner quelque part dans le Queens. Avec des jambes de 20 pouces et son pare-choc de tank, il représentait le top de la frime et du bling-bling, le genre de caisse haut de gamme qui intéressait les voleurs. A fortiori, si on laissait les clés sur le tableau de bord. Satisfait d'avoir pris sa décision, il arriva dans la ruelle où il était garé pour constater que... La voiture n'était plus là. Il regarda autour de lui. Tout était désert. Il tendit l'oreille. On n'entendait que le bruit des vagues et du vent qui faisait grincer les manèges. Youri resta un long moment immobile, interloqué par la rapidité avec laquelle on avait subtilisé le véhicule. Devait-il s'en inquiéter ou s'en réjouir? Surtout, devait-il prévenir son patron? Il décida de ne rien dire. On lui avait demandé de faire disparaître la voiture, et la voiture avait disparu. Voilà tout. L'important, c'était d'avoir la fille.